Bonjour et bienvenue. La personne que nous voudrions vous présenter aujourd'hui est décédée en 1992, mais ne craignez rien, cela ne veut pas dire que vous allez entendre des messages d'outre-tombe. Dans cette émission, nous voulons évoquer la mémoire d'Eva Calais, fille de la Croix à Liège, et d'ailleurs déclarée juste parmi les nations par l'État d'Israël. Et pour le faire, nous avons invité son neveu, François Calais, qui a consacré tout un site internet à sa tante. Bonjour.
Bonjour.
Alors tout d'abord, François Calais, dites-nous pourquoi vous avez créé ce site. Cela n'arrive quand même pas tous les jours qu'un neveu veuille sauvegarder le souvenir de sa tante. Il faut peut-être dire tout de suite que ce n'est pas un site particulier pour votre tante, mais que c'est votre site personnel.
Oui, en fait, voici maintenant 6 ans, j'ai décidé de créer un site internet personnel. Parlons un peu de différents aspects de ma vie, philosophique et autres. Tout doucement, j'ai été amené à introduire dans ce site certaines pages familiales, notamment parce que je suis passionné entre autres de généalogie, et donc j'ai eu l'occasion d'étudier la famille de très près. Je suis un peu dépositaire du souvenir familial auprès de ma famille élargie.
Eva Calais, vous avez eu une relation très personnelle et continue avec elle, beaucoup de souvenirs?
Oui, ma tante, en fait, on lui rendait visite dans les premières années, jusqu'à ce que j'ai, mettons, l'âge de 12 ans, très très fréquemment dans le couvent qu'elle occupait à Bèves et puis rue Château, à Liège. Et par la suite, là j'ai eu des relations beaucoup plus personnelles. D'abord, le concile Vatican II ayant permis le retour en famille, elle est revenue à la maison. Donc par exemple, un de ses premiers tours en famille était tout à fait mémorable. On a eu des moments extraordinaires de chaleur humaine et de joie de la revoir revenir ou venir pour la première fois. Et par la suite, j'ai bien sûr, grandissant en âge, j'ai eu des relations tout à fait personnelles avec elle. Et elle nous a toujours partagé, étant donné sa proximité affective avec mon père, qui était son frère, né juste après elle dans la fratrie de 6 enfants. Elle a gardé vraiment beaucoup d'amitié pour mon père et donc on se voyait vraiment très souvent, oui.
Alors, elle a été fille de la Croix. Parlez-nous un peu de cette congrégation qui a la particularité d'être née, d'avoir été créée à Liège, en région liégeoise.
Mais la congrégation des filles de la Croix est effectivement un ordre religieux d'origine liégeoise qui fut fondé en 1833 par la fille de secrétaire des princes évêques de l'époque et qui s'appelait Marie-Thérèse née Jeanne Haas. Et ce qu'elle va faire, en fait, c'est approcher une vie en communauté avec d'autres amis à elle, dans un mouvement de vie qui est tourné vers les pauvres, vers la souffrance. Donc le souci de Marie-Thérèse Haas et de ses consœurs va être d'aider les malades, des œuvres de charité, s'occuper des prostituées, mettre en place des hôpitaux, des homes, des orphelinats, et vraiment une attention au souci du pauvre dans la société. Et cette congrégation va se développer très fort et de façon impressionnante. Et par exemple, quand ma tante donc est entrée au couvent en 1931, il y avait 3000 religieuses filles de la Croix au monde à cette époque-là, dans différents pays, y compris dans les pays outre-mer, je veux dire.
Pourquoi Eva, qui ne dédaignait pas la vie de ce monde, s'est-elle engagée dans la vie religieuse? Ou peut-être tout d'abord parlons un petit peu de son enfance, parce qu'elle est née en 1908, donc elle a connu la Première Guerre mondiale. J'imagine une enfance un peu difficile, mais en même temps une fille joyeuse et vous m'avez dit un peu coquette même.
Oui, elle a gardé sa coquetterie toute sa vie. J'ai des photos d'elle à l'âge de 17 ans. Et c'est vraiment impressionnant, on la voit avec des robes très très coquettes, voilà. Et elle va garder cette coquetterie, elle ira jusqu'à, ce qui est très étonnant pour une sœur, surtout, bon, c'est le concile, je vous l'ai dit, a quand même libéré beaucoup de choses, mais jusqu'à se maquiller, mettre du rouge à lèvres, fumer des cigarettes avec un porte-cigarette. elle avait vraiment tout un désir d'élégance. Mais, bien sûr, durant la période pendant laquelle elle était habillée avec les cornettes et tous les habits religieux, là, elle n'a pas absolument pas pu mettre ça. Par contre, quand elle fut économe générale au moment du concile, elle a participé et collaboré de très près à l'étude de la bille, des nouveaux voiles, etc. Elle nous a partagé tout ça, je m'en souviens très bien.
Mmh. Alors revenons à son entrée dans la vie religieuse. Donc je crois qu'elle avait 23 ans.
Oui, alors elle est entrée à l'âge de 23 ans, ce qui était apparemment pas banal pour l'époque, en 1931. Beaucoup de religieuses entrant dans les ordres beaucoup plus jeunes. Mmh. Mais mon grand-père l'a obligée à faire des études avant d'entrer dans la vie religieuse pour s'assurer, entre autres, que cette vocation était bien sûre,
solide.
Voilà. Ma tante est la quatrième fille d'une famille de 6 enfants, 5 filles et un garçon, le garçon étant mon papa. Elle va perdre sa maman à l'âge de 13 ans, décédée d'une maladie cardiaque. Bon, elle a connu aussi la guerre 14, durant laquelle elle a été déportée, je veux dire, au sein de la famille à Sittard, aux Pays-Bas, pour être plus sécurisée par rapport aux attaques qui avaient lieu à Liège. Mon grand-père faisait de la résistance pendant la guerre 14. Il y a différents éléments. Elle a bien sûr 3 sœurs aînées. Et moi j'ai toujours ressenti comme une personne particulièrement surdouée. Et je pense que, enfin, d'après les informations que j'ai eues, la société de l'époque, 1930-31, n'encourageait pas du tout les femmes à assumer une vie de créativité. Enfin, la femme était très confinée dans son foyer. Mmh. Quand une femme se mariait, elle restait dans la famille, elle faisait
s'occupait du ménage. Voilà. Et avait des enfants.
Voilà. Et je pense que ma tante, elle, avait une vigueur, un désir, une motion extrêmement forte à l'intérieur d'elle-même de développer toute une série de talents. Et alors, parallèlement, ce qui est merveilleux, c'est de les mettre à la disposition des autres et de Dieu.
Donc c'est ça qui l'attirait dans la vie religieuse.
Alors ça qui l'attirait dans la vie religieuse, effectivement, je pense pouvoir dire, malgré que je n'ai pas d'informations sociologiques à ce sujet-là, que pour une femme particulièrement entreprenante, dans le bon sens du terme, mais une femme, je veux dire, qui a un esprit d'entreprise, la seule manière de pouvoir s'épanouir, c'était d'entrer dans la vie religieuse à l'époque.
Et les filles de la croix l'attiraient particulièrement parce que elles étaient au service du prochain.
Alors je pense qu'elle a d'abord elle a fait son régendat littéraire chez les filles de la croix, donc elle a eu une première rue Château précisément, donc elle a eu un premier contact avec les filles de la croix à ce moment-là. Et le type de vocation des filles de la croix, qui était de s'occuper de la souffrance des gens en détresse, des femmes principalement, hein, puisque la société était quand même très scindée à l'époque entre hommes et femmes. Je crois que ça a dû rejoindre très profondément un des désirs de ma tante, avec bien sûr un désir profond qu'elle avait, et dont nous pouvons parler si vous voulez, qui était de partir au Congo.
Ben justement, on va y revenir après la première musique. Vous nous proposez de la musique finlandaise, je n'ose pas dire le nom de l'interprète, pourquoi du finlandais ?
Mais c'est une musique que j'ai eu l'occasion d'entendre lors d'une retraite à Paris, dans une communauté luthérienne. Et en fait, c'est de la musique luthérienne d'une communauté finlandaise. On avait utilisé cette musique pour faire une chorégraphie. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce morceau.
Sinä olet Kristus, sydämeni kuiska. Sinä olet Kristus, poika Jumalan. Sinä olet Kristus, valo pimeydessä. Sinä olet Kristus, poika Jumalan.
De retour en studio avec François Calais qui est là avec nous pour évoquer le souvenir de sa tante, sœur Eva Calais, fille de la croix à Liège, d'ailleurs déclarée juste parmi les nations. On va y venir dans quelques instants. Mais on est arrivé, François Calais, à son entrée dans la vie religieuse chez les filles de la croix. Et vous venez de le dire, elle aurait voulu partir au Congo, mais finalement, j'ai lu sa biographie, elle va rester à Liège, et elle va devenir institutrice.
Oui, effectivement, le rêve profond de ma tante était de partir au Congo, d'habiter là-bas, d'enseigner là-bas, de vivre dans une mission là-bas. Elle a d'ailleurs choisi ses études de régente littéraire en se basant sur ce désir. Elle voulait enseigner, en fait. Et elle a apparemment aussi, en grande partie, ou en partie du moins, choisi la communauté des filles de la croix pour s'y engager, pour y vivre, parce que les filles de la croix avaient au Congo une très grande ouverture à la mission, etc. Et donc, elle imaginait profondément, dans cet engagement-là, qu'elle pourrait partir et enseigner là-bas.
Mais elle reste quand même à Liège, donc elle va passer dans plusieurs établissements.
Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que la communauté ayant la chance, peut-on dire, surtout à l'époque, d'avoir une sœur qui est diplômée, ce qui est rare, veut garder cette sœur diplômée en Belgique parce que les lois belges à ce moment-là établissent que les enseignants doivent être diplômés, avoir ce type de diplôme. Et donc, dans un esprit d'obéissance, parce que les filles de la Croix sont une communauté de type ignatien, donc l'esprit d'obéissance, d'autorité est très sévère, surtout à l'époque, on lui demande, on lui signifie, on lui dit qu'elle doit rester en Belgique, elle ne partira pas. Pour elle, c'est un choc immense.
Mais qu'elle accepte avec obéissance?
Alors voilà, justement, là, je pense qu'on trouve une des grandes composantes de la foi, ou de sa foi, c'est son obéissance stricte. Et elle ne va jamais discuter ou remettre en question. Il y a une forme de loyauté qui l'entraîne à cette obéissance. Il faut dire que l'obéissance, au niveau de sa famille, mon grand-père était un homme d'autorité. Donc, les gens de l'époque étaient d'autorité. Enfin, en tout cas, dans les milieux, je veux dire, les milieux dans lesquels nous provenons. Donc, elle est habituée à ce type d'autorité. Et elle va continuer, d'ailleurs, à l'appliquer elle-même quand elle aura l'autorité, quand elle sera nommée supérieure dans différentes congrégations.
Parlons aussi des années de la guerre, 40-45, parce que là, elle a vraiment fait preuve d'un courage extraordinaire.
Alors pendant la guerre 40-45, elle était dans la communauté de Bèves-Timistère, près de Verviers. Elle n'est pas encore nommée supérieure, elle sera juste après la guerre, mais elle va déjà devenir très active. Et entre autres, dans les choses qui sont remarquables, je veux dire qu'il y a peut-être deux éléments à mentionner. Le premier, c'est l'attention qu'elle a eue vis-à-vis de la ferme. Ça peut paraître, pour nous, ça peut paraître actuellement étonnant ou même un peu banal, oui. Mais pendant la guerre, on manquait de viande, etc. Et donc, ma tante a fait développer dans l'établissement l'élevage de porc, notamment, etc. Et alors, ma tante avait, vis-à-vis des animaux, j'aime bien le mentionner aussi, une attention tout à fait particulière, un peu comme Saint François. Elle considérait les animaux comme des personnes. Donc, quand elle était devant un dindonneau, elle disait « Bonjour, monsieur le dindonneau. » et tout « Bonjour, madame la vache. » Donc, elle avait une attention pour elle. Tout ce qui est de la nature était le reflet de Dieu, y compris la vie animale. Et à ce titre-là, méritait un respect absolu. Et quand on allait tuer le cochon pour le manger, eh bien, elle expliquait au cochon. Voilà, vous allez devoir, parce que vous allez vous retrouver dans notre assiette. Donc il y a quelque chose, une démarche, je veux dire, de respect et d'amour profond.
Et puis il y a aussi la raison pourquoi elle a été déclarée cette année, je crois, 2010, juste parmi les nations.
Oui, effectivement, donc la cérémonie aura lieu au mois d'octobre de cette année. Pendant la guerre, avec une autre sœur, elle collaborait probablement au niveau du pensionnat de l'école. Donc, il y avait une école des filles à Bèves-Timistère avec pensionnat. Et ce qu'elles ont fait, ma tante et cette consoeur, était de falsifier, bien sûr, les noms des enfants. Et elle a participé, alors tout à fait activement, à la cache d'enfants juifs au sein du pensionnat. Et alors, la reconnaissance est venue parce que ces enfants, enfin certains de ces enfants ayant grandi, ont introduit à Yad Vashem, donc auprès de l'État d'Israël, un dossier de reconnaissance. Et c'est ainsi que ma tante et l'autre sœur, qui collaboraient deux ensemble là, à l'époque, à cette action-là, vont maintenant être reconnues juste parmi les nations, effectivement.
En 1955, Eva Calais devient économe générale à la maison mère rue Hors-Château à Liège, donc retour à Liège.
Oui, effectivement. Juste avant ça, elle est nommée pendant un certain nombre d'années directrice donc des établissements de BF Timistère et supérieure de la communauté. Mais je pense qu'on a reconnu en elle des talents de gestionnaire, des talents humains de relations publiques notamment. Et c'est ainsi qu'elle va être nommée économe générale de toute la congrégation. Donc ça ne reprend pas seulement la région liégeoise, mais ça reprend le monde entier. Mmh. Ça veut dire qu'à ce titre-là, elle doit gérer tout l'aspect économique de toutes les maisons des Filles de la Croix du monde entier. Et ça va l'amener, bien sûr, à voyager dans... là, et là, c'est son bonheur. Donc, elle a pu partir en Inde, visiter d'autres communautés en Angleterre, en Allemagne, etc. Elle parlait différentes langues. Et elle nous a rapporté des photos, mais elle était, je veux dire, mais pour elle, c'était tout bonheur, tout bonheur. Je me souviens, moi, personnellement, de son voyage en Inde. Elle est venue nous voir juste après, elle rentrait à la maison à ce moment-là. Et le partage de tout ce qu'elle avait découvert, c'était exceptionnel.
Dans la troisième partie, nous allons parler aussi de ses activités hospitalières, puisqu'elle va aussi être fondatrice d'un hôpital. Mais avant cela, de nouveau, un peu de musique. Et cette fois-ci, ce sera du jazz, Roberto Fonseca. Dernière partie de notre entretien avec François Calais au sujet de sa tante Eva Calais, fille de la Croix à Liège, déclarée juste parmi les nations. Alors dans cette troisième partie, parlons surtout des activités hospitalières de votre tante parce qu'elle a fondé un hôpital à Liège.
Oui, les Filles de la Croix possédaient à Liège un ancien sanatorium qui avait été reconverti en petit hôpital de 50 lits à Bois-de-Breux. Et en 1965, la communauté a décidé de créer, de mettre en place et de construire un hôpital moderne de 250 lits. Et on a demandé à ma tante de s'occuper de la coordination des travaux, de la gestion de ce qui allait se passer et par la suite, de coordination globale de l'hôpital. C'est assez étonnant parce qu'à l'âge de 59 ans, elle est partie à l'UCL faire des études de gestion hospitalière. Et puis elle a commencé à parcourir l'Europe pour visiter tous les hôpitaux modernes auxquels elle avait accès, de manière à pouvoir avoir des idées sur la réalisation de l'hôpital, qui est l'hôpital de Bois-de-Breux, donc à Liège. Clinique de Bois-de-Breux qui est devenue hôpital, donc on mélange un peu la terminologie, puisque ça a été récemment racheté en 2002 par le CHU, donc maintenant on parle d'hôpital, mais à l'époque c'était une clinique privée. Alors ma tante, dans son souci de l'autre, le souci de l'homme, va faire construire la clinique en se basant uniquement sur le confort du patient, le confort du corps médical, mais aussi le confort de la famille du patient et sur les relations humaines. Ça, c'est une première chose. Donc, elle va étudier toutes sortes de concepts qui, pour l'époque, étaient nouveaux et qui vont parfois très loin, même du point de vue médical. Notamment le concept de la mère et de l'enfant dans la même chambre, dans les maternités. Ça, c'était tout nouveau. Ma tante a introduit ce genre de choses. Mais d'autres choses aussi. Le fait d'avoir un restaurant très convenable dans le sous-sol de l'hôpital destiné aux familles qui viennent rendre visite. C'était aussi quelque chose qui, à l'époque, était nouveau. Et voilà, je ne vais pas retracer toute l'histoire, il y a trop de choses. Mais vraiment, l'hôpital était rempli de telles réalisations.
Alors, je crois que les auditeurs ont bien compris que votre tante était un personnage extraordinaire. Vous avez déjà donné quelques éléments. Mais pour conclure, que retenez-vous en particulier au niveau peut-être de son caractère, de sa personnalité, finalement aussi de sa façon de vivre la foi?
Mais ma tante, effectivement, est une personne intelligente, mais très joviale. Donc, quelque part, elle symbolise un peu le sourire de Dieu. Tous ceux qui l'ont rencontrée l'ont toujours, enfin, ou très souvent, du moins quand elle n'était pas contrariée ou dans des problèmes diplomatiques, je veux dire, de gestion économique. Mais c'était une personne très souriante. Alors, elle avait une ouverture d'esprit sur le progrès. Et ça, c'est tout à fait étonnant, mais quelque part, c'est une ouverture à la vie. En termes plus spirituels, je dirais qu'elle respirait d'une part la foi. Elle avait une vie de prière personnelle très intense, mais qui était doublée d'une humilité très grande. Donc on ne la connaît pas, nous en tout cas sa famille, bon la communauté bien sûr, mais ça ne me regarde pas, mais sa famille, nous ne sommes pas réellement au courant de cette vie de prière, mais nous savons qu'elle existe. Et dans ce ressourcement spirituel, elle nourrissait une espérance et toujours tournée vers la charité. Et quand ma tante sentait qu'un projet lui était, je veux dire, demandé, soit par la communauté, soit dans sa prière, peut-être, elle s'y acharnait, mais elle s'y accrochait d'une manière absolument inimaginable, et accompagnée jusqu'au bout de cette espérance et de cette foi inébranlable.
Je crois qu'on pourrait encore dire beaucoup de choses sur votre tante, François Calais, mais on peut inviter éventuellement les auditeurs à aller voir sur le site internet avec toute une série d'informations, plusieurs pages donc sur votre tante. L'adresse?
Oui, l'adresse en fait c'est mon nom de famille, donc c'est http /www, ça c'est classique, Calais, calay.be. Et alors dans mes menus, parce que là évidemment c'est un site qui est personnel à moi, donc, mais dans les menus à gauche se trouve un sous-menu généalogie familiale, et là il y a un titre qui s'appelle « Ma tante Eva Calais ». Pour ceux qui veulent y accéder directement, c'est possible aussi, c'est la page eva.php.
Je rappelle donc www.calais.be. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission. Aujourd'hui, notre invité était François Calais, qui a évoqué la mémoire de sa tante, Eva Calais, fille de la Croix à Liège. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Portez-vous bien. À bientôt sur les ondes de RCF.